Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec le philosophe et écrivain Marc Alpozzo. Bonjour Marc Alpozzo.
Merci d'avoir
accepté mon invitation. Je voulais dialoguer avec vous, réfléchir avec vous sur la nouvelle communication que nous avons dans les médias avec le discours wokiste, avec notamment en tête des gens comme Alice Coffin, des gens comme Sandrine Rousseau, qui pour beaucoup de nos compatriotes ont des discours qui ne sont pas compris. Je vais commencer directement comme ça. Quand vous entendez parfois certaines de leurs interventions télévisées, discours, références sur le patriarcat, sur des choses qu'elles évoquent, beaucoup de gens dans la France profonde, en province là où nous sommes, ne savent pas ce qu'elles veulent dire et ne comprennent vraiment pas ce qu'elles disent. Est-ce qu'il y a une fracture sémantique aussi dans notre société ?
Écoutez, moi je pense qu'en tout cas, si elles ne sont pas comprises de l'ensemble des gens, c'est parce que déjà elles utilisent une nouvelle langue, si vous me permettez l'expression, elles utilisent une nouvelle langue qui détourne les mots de leur définition première pour faire passer, si j'ose dire, des idées, des doctrines, des théories, enfin. Après, je ne vais pas aller dire que Sandrine Rousseau et Alice Coffin sont des penseurs. Hein. Ce sont absolument des penseurs. Elles n'ont pas de pensée. Elles ont surtout des slogans. Mais elles utilisent les mots sous un angle nouveau qui, évidemment, perdent le sens commun, le sens profond des choses. Donc, quand, par exemple, Sandrine Rousseau s'attaque au barbecue, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait, Sandrine Rousseau? Mais je parle qu'est-ce qu'elles font, parce qu'après on a Clémentine Autain, on a d'autres de ses amis qui viennent à la rescousse. Elles viennent en fait nous dire, voilà, c'est scientifiquement prouvé, mais qui a prouvé ça? On aimerait savoir. Ben, est-ce qu'on peut pas démontrer le contraire? C'est scientifiquement prouvé. La viande est consommée essentiellement par des hommes, et c'est l'expression de la virilité. Enfin, je veux dire, quand on plane à 10 000 et qu'on est, si j'ose dire, quand on mange du soja ou du quinoa, j'imagine qu'on peut le comprendre. Mais quand on a besoin de manger de la viande pour avoir des forces, pour travailler, pour lever des poids, pour retourner la terre, pour faire un travail véritablement physique, eh bien, peut-être qu'on ne comprend pas exactement ce que veut dire la virilité dans la bouche de Sandrine Rousseau.
Est-ce qu'on va vraiment aller, Marc, vers une fracture de notre société beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine? Parce qu'avant, on était souvent dans des fractures idéologiques. Il y avait les gens de droite contre les gens de gauche. Il y avait, à tout moment de l'actualité, les gens qui étaient pour Maastricht contre les gens qui étaient contre Maastricht. Mais au moins, tous ces gens-là parlaient au moins la même langue et pouvaient débattre autour d'une table. Là, on est dans une société où les gens ne se comprennent plus, ne parlent plus la même langue.
Absolument, mais c'est une décision idéologique. C'est aussi une décision idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre dans le même processus et dans la même logique que cette tentative de discrédit de la viande, de la consommation de la viande et surtout de la viande rouge, parce que en fait, cette nouvelle génération de femmes veulent démolir la rationalité, donc démolir la rationalité des Lumières, démolir le langage commun pour construire un nouveau langage et une nouvelle rationalité. Alors, on entend des néo-féministes dire qu'il faut en finir avec les Lumières et qu'il faut revenir aux sorcières. On a également Chollet, hein, l'écrivain Chollet, hein, Mona Chollet, qui met au pinacle les sorcières, grand succès de librairie, et qui considère aujourd'hui que la rationalité scientifique, la rationalité des Lumières, c'est du patriarcat. Je note quand même la contradiction interne de ces femmes, puisque en même temps, Sandrine Rousseau affirme que la viande rouge, c'est de la virilité, en se basant sur des résultats scientifiques. Donc, elles sont en pleine contradiction avec elles-mêmes. D'un côté, elles combattent avec des armes sémantiques, avec des slogans, avec de la dialectique marxiste. Elles combattent la rationalité des Lumières. Et d'un autre côté, elles recourent à la rationalité des Lumières.
Ce changement de paradigme intellectuel, c'est-à-dire quand nous on a toujours été dans le paradigme intellectuel, quand il fait jour, on dit qu'il fait jour, quand il fait nuit, on dit qu'il fait nuit, quand il fait froid, on dit qu'il fait froid. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans il fait jour, mais on a envie de dire qu'il fait nuit, bah il faut accepter au nom de la tolérance que l'autre se considère être en pleine nuit. Voilà, c'est à peu près ça. Comment le professeur, comment vous qui êtes prof, voilà, Marc Alpozzo, comment ça se ressent chez vos élèves? Est-ce qu'ils l'acceptent? Ça fait partie de leur nouvelle mentalité ou on peut dire que ça marchera jamais?
Moi, je note. Moi, je suis dans un lycée qui est très ouvert aux nouvelles lunes de notre époque. Oui. J'ai un groupe, si j'ose dire, d'élèves très très différents. Hein. J'ai effectivement des élèves qui sont idéologiquement très à gauche, d'extrême gauche, et puis j'ai des élèves qui sont un peu plus mesurés par rapport à ça et qui sont un petit peu suspicieux. Mais effectivement, ce que vous dénoncez, qui n'est pas nouveau, hein, c'est de faire croire qu'il fait beau alors qu'il pleut, et de dire à des gens si vous voyez cela, alors vous êtes d'extrême droite, ou vous êtes passéiste, ou vous êtes réactionnaire. Alors, c'est pas nouveau, si on ouvre George Orwell, je pense que tout le monde a ouvert au moins une fois dans sa vie 1984 de George Orwell. Vous voyez bien que le Big Brother dit bien que la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. C'est une technique qui est utilisée par les révolutionnaires de gauche pour c'est un double langage hein, et qui a pour but de détruire les mots, d'appauvrir la langue pour, si j'ose dire, ramener la nouvelle vérité à une idée unique dont on ne pourrait pas se passer et que l'on ne peut pas nier. Alors c'est ça le but de ces éducatrices hein, puisque Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, Alice Coffin deviennent de vraies éducatrices du peuple. Hein. Elles font des leçons de morale à longueur de temps à tout le monde. Elles sont éducatrices des masses. Elles utilisent la novlangue qui est devenue l'écriture inclusive. Alors il faudrait que je dise l'écrivaine Virginie Despentes, la première ministre, etc. Donc effectivement, on est maintenant dans un nouveau paradigme où on veut absolument faire passer l'homme blanc, l'homme de 50 ans un peu bedonnant, pour un homme des temps passés. Et on doit arriver à un nouvel homme qu'ils appellent l'homme déconstruit, c'est-à-dire un homme nouveau qui serait un homme finalement qui n'aurait plus la virilité qu'elle dénonce, mais en même temps qui ne serait plus quelqu'un qui voudrait le pouvoir, qui voudrait exprimer sa puissance, qui voudrait exprimer sa subjectivité dans l'espace social, parce que maintenant, place aux femmes. Il y a un journal récemment qui a mis en couverture que des hommes, donc des hommes blancs, et pas une seule femme. Et ça a été immédiatement dénoncé. Eh bien,
je crois que c'est le film français ou Stratégie, un journal dans la.
C'est ça. Et alors, ça a été immédiatement dénoncé. Imaginez la même couverture, mais avec des femmes. On n'aurait rien dit. D'ailleurs, on note qu'il y a de plus en plus de femmes dans les postes de pouvoir, en tout cas parmi les femmes politiques, maires, à Paris par exemple, à la mairie, il y a plus de femmes que d'hommes apparemment. Bon, l'information a confirmé, mais je vois bien que quand il y a plus de femmes que d'hommes, on se félicite en disant que c'est le progrès. Donc en fait, c'est un progressisme, mais c'est un progressisme à tête de linotte, c'est-à-dire que c'est un progressisme qui ne voit plus le point aveugle de sa pensée, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de retourner un universalisme qui était, et je pense que nous sommes tous pour ça, qui était une parité, c'est une égalité entre les hommes et les femmes, et je pense que nous voulons tous ça, en une haine du sexe mâle et en une guerre des sexes. On fait et ça, ça devient inquiétant. Il y a avec un ministère de la vérité, un ministère de la vérité que vous avez largement largement dénoncé, qui lui nous dit que la réalité qu'on voit, c'est pas ce qui est.
Oui, mais alors si moi on peut se replacer dans tout, parce que maintenant vous avez ça sur des questions de race aussi, voilà, quelqu'un qui est complexé d'être blanc va se dire je suis noir, je ne me sens pas blanc parce que j'ai honte, je reviens même pas sur les épisodes de sexe, je suis un garçon mais non en fait je suis une femme et là je veux redevenir un garçon. Si je transpose cette idée que la vérité que l'on voit ou ce que l'on se... puisqu'en réalité la culture woke se résume de la façon suivante, je parle sous votre contrôle, si je crois que je suis quelque chose parce qu'au fond de moi, c'est au fond de mon âme, et que ça ne correspond pas à mon physique, tant pis, ce qui compte, c'est ce que j'ai au fond de mon âme. On est d'accord.
C'est à peu près ça. Oui.
Bon. Si moi, au fond de mon âme, vous évoquez l'homme de 50 ans, un peu bedonnant, et je me dis, je me sens pas bedonnant à 50 ans, je me sens comme un jeune de 14 ans, et je décide d'aller coucher avec une fille de 14 ans, parce qu'au fond de mon âme, j'ai 14 ans. Qu'est-ce que je vais dire au juge, moi? Monsieur le juge, j'avais 14 ans. Pourquoi dites-vous que j'avais 50 ans?
Bien sûr. Oui,
si je pousse ce raisonnement.
Bien sûr, si on pousse le raisonnement à l'absurde, on est là. Totalement. Mais évidemment, dans ce sens-là, ça marche pas. Ça ne marche que dans le sens des idéologies dominantes. C'est-à-dire l'idéologie LGBT. Alors, l'idéologie LGBT, aujourd'hui, on commence à sensibiliser les enfants.
Bah alors, je vais dire au juge, j'ai couché avec un petit garçon de 14 ans.
Oui, alors évidemment, si on considère que ce que l'on ressent en soi, c'est une réalité et que cette réalité, elle s'impose parce que c'est une vérité comme une autre, nous sommes plongés là dans le paroxysme de notre époque où toute opinion est une vérité comme une autre et donc tout sentiment, c'est-à-dire le sentiment d'être blessé, est une vérité comme une autre. Donc si vous me dites que je suis prof de philo mais que moi j'estime être philosophe et être philosophe au niveau de Kant et donc vous venez de me blesser parce que vous n'avez pas dit que j'étais philosophe au niveau de Kant, alors évidemment on est là plongé dans une espèce de totalitarisme généralisé parce que chaque individu devient le totalitaire de l'autre.
Ah ben alors, on n'est pas très loin. Quand vous parlez à des députés de la NUPES, ils se prennent pour le général de Gaulle ou pour Simone Veil. Hein.
Ah mais complètement.
Ah bah oui, donc on en est déjà là.
Mais c'est véritablement une question qui est posée hein, par les philosophes. Socrate pose la question à Théétète. Théétète qui relaye la pensée de son maître Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses, et donc Socrate lui demande dans un texte, d'ailleurs un passage du Théétète, il lui demande, d'accord, toi tu exprimes une vérité qui t'est propre, mais est-ce que moi j'ai le droit de juger cette vérité? Or apparemment aujourd'hui, la réponse est non, tu n'as pas le droit de juger ce que je pense, tu n'as pas le droit de juger ce que je dis. On dirait des enfants de 5 ans hein, qui sont capricieux et qui ne veulent pas que les parents les remettent en cause. Et c'est ce que nous vivons actuellement à l'école. Nous vivons ça à l'école. On n'a plus le droit de remettre en cause les élèves. Si on remet en cause un élève qu'on dit, par exemple, à un élève, tu as copié sur Internet ce que tu as écrit là, ça ne peut pas être toi, ou alors c'est que tu es personne, eh bien, vous avez aussitôt les parents qui appellent pour demander des comptes. On a la même chose parmi les LGBT. Je veux dire, des gens qui se sont sentis dans un mauvais corps, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui se sentent dans un mauvais corps.
Ah oui.
C'est comme ça. Alors, on peut l'expliquer, hein, peut-être médicalement, on peut l'expliquer autrement. Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas commencer à rentrer dans une explication comme celle-là. Je maîtriserai pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas nouveau. Or, aujourd'hui, on a une inflation, hein, plus 400% de jeunes de moins de 18 ans qui se sentent aujourd'hui dans un mauvais corps. Eh bien, on devrait se questionner sur cette inflation. Et on a maintenant une inflation, alors on a des transitionneurs, hein, ceux qui passent du, par exemple, les F2M, des filles qui deviennent des garçons, on a des, ou alors des garçons qui deviennent des filles, on a des transitionneurs, mais on a une inflation de détransitionneurs. Alors, et d'ailleurs...
oui, qui eux se sentent mal dans leur corps parce qu'ils ont changé de corps.
Alors, ils n'ont pas changé de corps.
Enfin, ils ont changé de genre.
Voilà. C'est pas la même chose. Parce que aujourd'hui, il y a maintenant, et on est plongé en plein encore dans les doctrines du début du XXe siècle, doctrine communiste. C'est Lénine qui dit faites-leur avaler le mot et ils avaleront la chose. Alors, on fait avaler le mot. Hein, et puis les gens, à un moment donné, surtout les jeunes qui sont en construction et qui sont pas tout à fait sûrs, on a tous été comme ça, on a tous questionné notre identité sexuelle, on a tous questionné notre désir sexuel. Est-ce que je suis hétérosexuel? Est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que je suis bisexuel? Aujourd'hui, on essaye de faire avaler quelque chose à des jeunes qui sont fragiles et qui sont en construction, tu n'es peut-être pas un garçon, même si biologiquement, tu es un garçon, ce qu'on appelle l'assignation à la naissance. Alors, il y a une assignation à la naissance mâle, ou une assignation à la naissance femelle, et on va aller dire à une personne qui est biologiquement une femme ou biologiquement un homme, oui, peut-être que tu es né dans le corps d'un garçon, mais peut-être que ton genre n'est pas le masculin, mais le féminin. Donc, on est en train de troubler des esprits. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté avec pas mal de collègues qui sont des gens très ouverts, hein, sur la transidentité et sur la dysphorie de genre. Et je pense que c'est une bonne chose de l'être. Hein. Je pense que c'est une bonne chose de mettre un peu plus de tolérance et un peu plus d'égalité entre les êtres humains. Et je pense que des gens qui souffrent réellement de dysphorie de genre doivent être intégrés à l'espace social, ne doivent pas être comme ça cachés, mis sous le tapis, comme si c'était une verrue au milieu du visage. Je pense que c'est une bonne chose. Mais ces mêmes personnes qui sont tout à fait ouvertes à l'euphorie de genre sont quand même un peu critiques, et ça rassure, parce qu'elles disent mais par exemple une collègue me disait récemment, mais moi, il m'arrive le matin de mettre des jeans parce que je me sens beaucoup plus masculin et puis ou masculine, et puis l'après-midi, je mets une robe parce que je me sens plus féminine. Bon, eh bien, écoutez, moi, c'est pareil. Alors, évidemment, on va pas mettre des robes tous les deux parce que bon, voilà, il y a la normalité sociale qui nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre de robe, alors on va pas mettre de robe, mais on va utiliser d'autres artifices qui exprimeront notre féminité. La théorie du genre n'est pas non plus totalement à condamner, mais c'est cette manière d'imposer aux gens, c'est-à-dire par des techniques qui sont des techniques totalitaires. Je répète la phrase de Lénine, faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose. On va vous faire avaler le mot pour que vous avaliez la chose, pour que vous deviez vous-même, pour que vous ayez vous-même des doutes sur votre identité sexuelle.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet effet de... Il n'y a pas aussi, Marc Alpozzo, cet effet de groupe pour nous faire avaler le mot, même si ça correspond pas à la réalité de ce que l'on voit, on l'accepte quand même parce on ne veut pas être exclu du groupe. Si le groupe, on sent que majoritairement un groupe pense quelque chose, on a envie de garder ses relations et d'être bien vu, de ne pas être marginalisé. Donc, on fait semblant d'avaler le mot. Puis, à force d'avoir fait semblant de dire qu'il fait jour quand il fait nuit, on finit par s'auto-persuader.
Oui, c'est la grégarité. Ça s'appelle la grégarité. Et ça s'appelle le suivisme, et puis ça s'appelle le manque de courage. Et effectivement, de tout temps, hein, c'est pareil, on remarque dans le groupe un manque de courage de la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils n'en pensent pas moins, mais pour ne pas effectivement être écartés du groupe ou diabolisés, pire, pire, être tué socialement, assassiné socialement, pour ne pas vivre une mort sociale, il préfère avaler le mot et répéter comme des perroquets à l'unisson ce que dit le groupe, plutôt que d'affirmer leurs idées. C'est une attitude qui est totalement condamnable, qui est totalement irresponsable à mes yeux, hein, mais effectivement, il y a une obéissance, hein, de la part du groupe au groupe. Très bien. Alors à ce moment-là, effectivement, on voit aujourd'hui des gens qui vont éviter très soigneusement la polémique pour ne pas être tués socialement. Et on voit à quel point l'extrême gauche essaye d'assassiner socialement les gens. Prenez par exemple l'auteur d'Harry Potter. Elle a, est pourtant une femme de gauche, elle a osé dire sur les réseaux sociaux que un homme ne pouvait pas avoir ses règles. Elle a été d'abord, évidemment, il y a eu une cabale contre elle, il y a eu une chasse à l'homme, une chasse à la femme, hein, si j'ose dire, et puis s'en est suivi une chasse à la femme, et puis à la fin, eh bien, on l'a traité de transphobe et on l'a ostracisé, et maintenant, on voit les acteurs et les actrices de son du film d'Harry Potter qui ne veut plus qu'elle soit même mêlée au générique. Donc, on voit là une folie, une espèce d'hystérie collective, une folie collective. Alors, on peut parfaitement comprendre, enfin moi en tout cas, je suis désolé de le dire, mais je comprends très bien ce que veulent dire les LGBT quand ils disent qu'un homme peut avoir ses règles. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on considère qu'une personne peut se revendiquer d'un genre et non plus d'un sexe biologique, donc d'une assignation, alors effectivement, on pourrait être face à un homme qui a ses règles ou qui est enceint. Alors, effectivement, ce sont des idées dans l'air qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être traitées philosophiquement. Je ne suis pas totalement fermé à ces idées, comme je ne suis pas totalement fermé, si j'ose dire, à un progressisme LGBT, c'est-à-dire une mise en avant un peu plus importante des personnes LGBT, qu'elles soient trans, qu'elles soient gays, qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient bisexuelles, ou alors qu'elles soient non-binaires, etc. Mais là, moi, j'ai depuis mon article dans Entreprendre sur justement sur les détransitionneurs, eh bien, je reçois des messages de mères, pourtant pareil, médecins de gauche ou des mères qui ne sont absolument pas contre la transidentité, mais qui sont inquiètes parce que leur propre enfant est pris là-dedans, donc a le sentiment d'être dans une dysphorie de genre, et face à ce phénomène de masse qui est la détransition, et face a déjà pas mal d'études hein, scientifiques, on voit bien qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire que je pense que c'est tout à fait légitime de la part d'une personne LGBTQI, 2S+, enfin vous voyez, tout l'acronyme immense aujourd'hui, qu'elle veuille revendiquer son identité de genre, différente du genre assigné à la naissance, ça je veux bien le croire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cisgenre, comme ils disent, très bien, elle est transgenre, très bien. Mais de là à faire un prosélytisme de grande envergure dans les écoles et d'aller perturber des enfants de 6 ans là-dessus, il y a des limites. Et ça, on appelle ça de l'humanisme. On appelle ça du droit on appelle ça de la prévention, mais moi j'appelle pas ça de l'humanisme, j'appelle pas ça de la prévention, j'appelle ça du harcèlement, j'appelle ça une forme de déshumanisation justement du discours, parce que on ne prend plus en compte l'autre, c'est pas vrai, on ne prend plus en compte, il n'y a pas de fraternité là-dedans. La fraternité, c'est faire l'épreuve du frère, ça c'est faire l'épreuve de son contraire. Ces gens-là ont comme rêve d'agréger tout le monde à leur propre subjectivité, à ce qu'ils sont eux, c'est quasiment de l'entre-soi. Donc, à un moment donné, il s'agit de nous laisser tranquilles, réfléchir à tout ça, mais évidemment avec le désir d'atteindre la vérité, même si évidemment il n'y aura jamais de vérité là-dedans. Je dis pas le contraire, mais au moins un certain désir. Hein, c'est un désir de faire le tri et de faire la lumière là-dedans, parce qu'on va vers un nouveau cataclysme humain. Toutes ces personnes qui sont en détransition actuellement, faut pas oublier que la transition avec des hormones, avec peut-être même de la chirurgie plastique, c'est irréversible. Donc c'est des personnes qui seront amputées toute leur vie. On voit aujourd'hui des enfants qui commencent adultes, qui commencent à faire des procès à leurs parents, parce que ces parents leur ont dit « Mon enfant, tu as 7 ans, tu penses que tu es une fille alors que tu es dans le corps d'un garçon, eh bien, allons-y !» Donc, il faut, je pense, revenir à un peu plus de raison, et c'est ce qui fait écrire aussi le philosophe. Je pense que le philosophe doit avoir cette honnêteté intellectuelle de ne pas condamner, évidemment, ce qui est dit. Je pense que la vérité est évidemment multiple, et surtout elle est partagée entre nous tous. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs évidemment. Et puis la vérité, je ne détiens pas la vérité, pas plus que Sandrine Rousseau ne détient la vérité, même si elle croit le contraire. Mais moi, ce que je crois, la différence entre moi et entre Sandrine Rousseau et moi, je pense que moi, j'essaye de faire acte de philosophie. Ça, j'essaye, comme je peux, hein, avec mes petits moyens, d'avancer vers un peu plus de lumière, un peu plus de connaissance des choses. Sandrine Rousseau fait de la pure et simple idéologie. Elle est dans l'idéologie et elle est aveuglée par son idéologie.
Tous ces discours sont caricaturés dans des sociétés arabes, orientales, perses. Je pense pas des sociétés arabes comme au Qatar, comme en Arabie Saoudite, comme en Iran, ensuite les Perses ou au Pakistan, où on met en caricature ce reflet que nous donnons de la société occidentale pour donner du grain à moudre aux extrémistes qui disent aux femmes « Restez dans votre condition, on vous protège, parce que si vous suivez l'Occident, voilà ce qui arrivera ».
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui arrive même chez Poutine ou en Iran, où on essaye d'une certaine façon on endoctrine les gens et on essaye de les faire penser d'une certaine manière, eh bien, on a la même chose chez nous. Je veux dire, il y a effectivement une langue de bois des pays totalitaires, mais il y a aussi une langue de bois des pays démocratiques. On dit tous la même chose. Je veux dire, et dès qu'on ne dit pas la même chose, eh bien, on est accusé de, par exemple, vous prenez le chanteur Booba. Vous voyez, ce fameux rappeur qui s'est illustré de manière, s'est tristement illustré à Paris-Orly avec son comparse Caris en se battant en une bagarre générale. Eh bien, Booba, qui est quand même très apprécié d'une certaine population, surtout de banlieue, et qui est un artiste quand même de qualité, de talent, même si moi je trouve parfois ses textes un peu grossiers, mais enfin bon, c'est son style. Il a fait un post où il dit « J'apprécierais pas trop que mon fils rentre un jour de l'école et me dise qu'il s'appelle Mireille. Là, on va avoir de sérieux problèmes. » Okay, je ne cautionne pas ces propos. Hein. Je considère que moi, si un jour ma fille rentre à la maison et me dit « Écoute, je m'appelle Joseph », on n'aura pas un sérieux problème ensemble, on aura une discussion. Je préfère, voyez. Mais bon, si vous voulez, voilà un homme qui représente quand même une communauté très importante de gens, qui lui dit clairement qu'il aura un problème avec son fils s'il s'appelle Mireille plutôt que le nom. Et on a immédiatement des gens qui lui tombent dessus, notamment Caroline de Haas, qu'on ne va plus présenter aujourd'hui, hein, qui lui dit « Vous êtes un transphobe, supprimez tout de suite. » Et alors lui répond évidemment par tweet, puisque c'est par tweet interposé, et il lui dit « À qui tu donnes des ordres, vous pétez les plombs. » Mais, je veux dire, c'est que là, on a un dialogue de sourds. on a un dialogue de sourds parce que pas non plus incriminer Booba ni Caroline de H, je veux pas être trop dur avec eux deux, mais je les trouve assez assez fermés d'esprit.
Extrémiste, vous allez dire.
Extrémiste, hein, mais d'accord. Je veux dire, on a effectivement Booba qui ne comprend pas que ça peut arriver. Moi, j'ai déjà connu ça, hein. Moi, personnellement, non, mais je l'ai connu parmi des amis où un jour, il y avait un coming out et puis on se faisait jeter à la porte par la famille. Bon, c'est pas une chose à faire, c'est évident, hein. Si votre enfant est homosexuel, il est homosexuel. S'il est transsexuel, il est transsexuel. S'il est transgenre, il est transgenre. Ben, écoutez, à un moment donné, quand on est parent, on aime ses enfants et on veut le meilleur pour ses enfants. Bon, encore faut-il qu'évidemment, ce ne soit pas un fantasme, ce ne soit pas téléguidé par une idéologie dominante, que ce ne soit pas rentrer dans la tête des gens à coups de marteau, que ce soit quelque chose, un sentiment exprimé librement et une décision libre d'aller vers tel style de sexualité ou tel style de tel genre, etc. Donc on a Booba qui, je pense, réagit de manière un petit peu, effectivement, un petit peu excessive. Et j'entendais jadis, quand j'étais ado, des parents dire comme ça, si moi, mon fils est homosexuel, je lui mets une balle dans la tête ou je l'envoie sur une île déserte. Et je me disais à l'époque, c'est des homophobes. Et j'avais, je pense, bien raison de le penser comme ça, quand j'avais 15-16 ans. Et puis on a une Caroline de Haas, qui effectivement lui dit « Non mais c'est n'importe quoi !» Alors elle sort son bâton de flic de la pensée correcte, et puis elle lui tape sur les doigts comme un vieux maître d'école taperait sur les doigts d'un élève, en disant « C'est pas bien, tu retires ça tout de suite, sinon on va te poursuivre en justice. » Mais à un moment donné, est-ce que cette société peut revenir à un petit peu de calme et peut revenir au dialogue ? Donc voilà un petit peu le travail du philosophe, c'est de remettre du dialogue dans une société où la doxa ne dialogue plus. Merci. Et moi, j'estime que le rappeur Booba, comme la députée, je crois qu'elle est députée, il me semble, Caroline de H, ou la féministe Caroline de H, en tout cas.
Non, elle n'est pas députée, Caroline de H.
Elle n'est pas députée, mais alors, elle est au moins féministe. Voilà. La féministe Caroline de H revienne à un peu de bon sens, parce que si on continue d'aller dans cette guerre des tranchées, parce que c'est une guerre des tranchées entre, il faut pas se mentir, une certaine population qui est dont on peut faire partie tous les deux, hein, bien sûr, mais une certaine population qui est quand même assez rompue contre cette idéologie, et puis des représentants d'une idéologie qui est devenue dominante et qui pense avoir détenir le bien moral, c'est-à-dire ils ont le sens aigu de ce qu'est le bien pour tous. On va arriver à une guerre des tranchées et ça va être une guerre de tous contre tous, hein. Donc le philosophe a pour rôle aussi d'essayer de faire un peu le tri dans les idées et d'essayer de calmer les esprits qui s'échauffent.
Merci Marc Alpozzo, vous étiez passionnant comme philosophe. Évidemment, comme Merci. D'habitude. Quelle est votre actualité littéraire ? Vous préparez quelque chose
pour les Je prépare. Oui, je prépare justement un livre sur les enfants de Babel. Justement, une question. Enfin, je questionne le wokisme, je questionne le néo-féminisme, je questionne toutes ces nouvelles lunes de l'époque. Et j'écris déjà là-dessus des articles qui paraissent régulièrement dans le site du mensuel Entreprendre et aussi dans certains médias comme Questions de philo, comme événements. Donc voilà, je travaille actuellement autour de ces. J'appelle ça les enfants de Babel parce que je pense que nous sommes dans une époque où vous avez commencé sur le langage. Je crois vraiment que nous sommes dans la tour de Babel. Plus personne ne parle le même langage. Quand on parle de wokisme, quand on parle de néo-féminisme, quand on parle d'écologisme, eh bien, je crains qu'en fait, on ne s'entende pas parce que nous n'avons pas les mêmes définitions et personne ne veut s'entendre sur la définition. Donc, on est face à une nouvelle génération qui parle plus du tout le même langage que les anciens et même parmi la population, celle que vous avez citée, qui est assez suiviste, plus personne ne partage les mêmes mots. M-O-T-S.
Ouais, bien compris, c'est le mal de notre société. Ouais, ce sont les mots de notre société.
Je partage des mots. M-A-U-X, ça, voilà. C'est sûr. Il y a un mal français.
Merci Marc Alpozzo, vous êtes écrivain et philosophe. À bientôt, merci pour ce tour d'horizon.
Merci beaucoup.